« Je sais tout, » dit Constance d'une voix à la fois douce et peinée. « Eh bien, » dit Madame Matifat à Birotteau, qui baissait humblement la tête, « combien vous emporte-t-il? S'il fallait écouter les bavardages, vous seriez ruiné. » Il avait à moi 200 000 francs. Quant aux 40 qu'il m'a fait imaginairement prêter par un de ses clients dont l'argent était dissipé, nous sommes en procès. « Vous le verrez juger cette semaine, » dit Popineau. « J'ai pensé que vous ne m'en voudriez pas d'expliquer votre situation à Monsieur le Président. Il a ordonné la communication des papiers de Roguin dans la chambre du Conseil afin d'examiner depuis quelle époque les fonds du prêteur étaient détournés et les preuves du fait allégué par Derville, qui a plaidé lui-même pour vous éviter des frais. « Gagnerons-nous ? » dit Madame Birotteau. « Je ne sais, » répondit Popineau. « Quoique j'appartienne à la chambre où l'affaire est portée, je m'abstiendrai de délibérer quand même on m'appellerait. » « Mais peut-il y avoir du doute sur un procès si simple ?» dit Pirou. « L'acte ne doit-il pas faire mention de la livraison des espèces et les notaires déclarer les avoir vus remettre par le prêteur à l'emprunteur ? Roguin irait aux galères s'il était sous la main de la justice. » « Selon moi, » répondit le juge, « le prêteur doit se pourvoir contre Roguin sur le prix de la charge et du cautionnement. Mais en des affaires encore plus claires, quelquefois, à la cour royale, les conseillers se trouvent 6 contre 6. » « Comment, mademoiselle? Monsieur Roguin s'est enfui ?» dit Popineau, entendant enfin ce qui se disait. « Monsieur César ne m'en a rien dit, moi qui donnerais mon sang pour lui !» Césarine comprit que toute la famille tenait dans ce « pour lui », car si l'innocente fille eût méconnu l'accent, elle ne pouvait se tromper au regard qui l'enveloppa d'une flamme pourpre. « Je le savais bien, et je le lui disais, mais il a tout caché à ma mère et ne s'est confié qu'à moi. » « Vous lui avez parlé de moi dans cette circonstance, » dit Popineau. « Vous lisez dans mon cœur, mais y lisez-vous tout ?»« Peut-être. » »« Je suis bien heureux, » dit Popineau. « Si vous voulez m'ôter toute crainte, dans un an je serai si riche que votre père ne me recevra plus si mal quand je lui parlerai de notre mariage. Je ne vais plus dormir que 5 heures par nuit. »« Ne vous faites pas mal, » dit Césarine, avec un accent inimitable, en jetant à Popineau un regard où se lisait toute sa pensée. « Ma femme, » dit César en sortant de table, « je crois que ces jeunes gens s'aiment. »« Eh bien, tant mieux, » dit Constance d'un son de voix grave. « Ma fille serait la femme d'un homme de tête et plein d'énergie. Le talent est la plus belle dot d'un prétendu. » Elle se hâta de quitter le salon et d'aller dans la chambre de Madame Ragon. César avait dit pendant le dîner quelques phrases qui avaient fait sourire Pierrot et le juge, tant elles accusaient d'ignorance, et qui rappelèrent à cette malheureuse femme combien son pauvre mari se trouvait peu de force à lutter contre le malheur. Constance avait des larmes sur le cœur. Elle se défiait instinctivement de Du Tillet, car toutes les mères savent le Timeo Danaos et Dona Ferentes, sans savoir le latin. Elle pleura dans les bras de sa fille et de Madame Ragon, sans vouloir avouer la cause de sa peine. « C'est nerveux, » dit-elle. Le reste de la soirée fut donné aux cartes par les vieilles gens et par les jeunes à ces délicieux petits jeux dits innocents parce qu'ils couvrent les innocentes malices des amours bourgeois. Les Matifat se mêlèrent des petits jeux. « César, » dit Constance en revenant, « va dès le 3 chez Monsieur le baron de Nucingen afin d'être sûr de ton échéance du 15 longtemps à l'avance. S'il arrivait quelqu'un y croche, est-ce du jour au lendemain que tu trouverais des ressources ?»« J'irai, ma femme, » répondit César, qui serra la main de Constance et celle de sa fille, en ajoutant « Mes chères biches blanches, je vous ai donné de tristes étrennes. » Dans l'obscurité du fiacre, ces deux femmes, qui ne pouvaient voir le pauvre parfumeur, sentirent des larmes tomber chaudes sur leurs mains. « Espère, mon ami, » dit Constance. « Tout ira bien, papa. Monsieur Anselme Popineau m'a dit qu'il verserait son sang pour toi. » « Pour moi, » reprit César, « et pour la famille, n'est-ce pas ?» dit-il en prenant un air gai. Césarine serra la main de son père, de manière à lui dire qu'Anselme était son fiancé. Pendant les 3 premiers jours de l'année, il fut envoyé 200 cartes chez Birotteau. Cette affluence d'amitié fausse, ces témoignages de faveur sont horribles pour les gens qui se voient entraînés par le courant du malheur. Birotteau se présenta 3 fois vainement à l'hôtel du fameux banquier royaliste, le baron de Nucingen. Le commencement de l'année et ses fêtes justifiaient assez l'absence du financier. La dernière fois, le parfumeur pénétra jusqu'au cabinet du banquier, où le premier commis lui dit que Monsieur de Nucingen, rentré à 5 heures du matin d'un bal donné par les Keller, ne pouvait pas être visible à 9 heures et demie. Birotteau sut intéresser à ses affaires le premier commis, auprès duquel il resta une demi-heure à causer. Dans la journée, ce ministre de la maison Nucingen lui écrivit que le baron le recevrait le lendemain, 12, à midi. Quoique chaque heure apportât une goutte d'absinthe, la journée passa avec une effrayante rapidité. Le parfumeur vint en fiacre et se fit arrêter à un pas de l'hôtel dont la cour était encombrée de voitures. Le pauvre honnête homme eut le cœur bien serré à l'aspect des splendeurs de cette maison célèbre. Il a pourtant liquidé deux fois, se dit-il, en montant le superbe escalier garni de fleurs, en traversant les somptueux appartements par lesquels la baronne Delphine de Nucingen s'était rendue célèbre. La baronne avait la prétention de rivaliser avec les plus riches maisons du faubourg Saint-Germain, où elle n'était pas encore admise. Le baron déjeunait avec sa femme. Malgré le nombre de gens qui l'attendaient dans ses bureaux, il dit que les amis de Du Tillet pouvaient entrer à toute heure. Birotteau tressaillit d'espérance en voyant le changement qu'avait produit le mot du baron sur la figure d'abord insolente du valet de chambre. « Pardonnez-moi, ma chère, » dit le baron à sa femme, se levant et faisant une petite inclination de tête à Birotteau. « Me Mensire était une pone royaliste et l'ami très intime des Titillets. D'ailleurs, Messire hat adjoint dit tu sais m'arrondissement et ton tépal d'une magnificence asiatique t'y fera sentir connaissance avec plaisir. Mais je serais très flattée d'aller prendre les leçons chez Madame Birotteau, car Ferdinand... Allons, pensa le parfumeur, elle le nomme Ferdinand tout court. Nous a parlé de ce bal avec une admiration d'autant plus précieuse qu'il n'admire rien. Ferdinand est un critique sévère, tout devait être parfait. En donnerez-vous bientôt un autre ? Demanda-t-elle, de l'air le plus aimable. « Madame, de pauvres gens comme nous s'amusent rarement, » répondit le parfumeur, en ignorant si c'était raillerie ou compliment banal. « Messire Crinteau a tiriché la restauration tes faux appartements, » dit le baron. « Ah, Grindeau, un joli petit architecte qui revient de Rome, » dit Delphine de Nucingen. « J'en raffole, il me fait des dessins délicieux sur mon album. » Aucun conspirateur gêné par le questionnaire à Venise ne fut plus mal dans les brodequins de la torture que Birotteau ne l'était dans ses vêtements. Il trouvait un air goguenard à tous les mots. « Ni ton nom est si des petits bals, » dit le baron en jetant un regard inquisitif sur le parfumeur. « Fifoyer qu'est-il les mondes s'en mêle ?»« Monsieur Birotteau veut-il déjeuner sans cérémonie avec nous ?» dit Delphine en montrant sa table somptueusement servie. « Madame la baronne, je suis venue pour affaire et suis... »« Ah !» dit le baron, « Montam, permettez-vous d'y parler tifir ?» Delphine fit un petit mouvement d'assentiment en disant au baron, « Allez-vous acheter de la parfumerie ?» Le baron haussa les épaules et se retourna vers César au désespoir. « Titillet brinlet plis fif intérêt à vous, » dit-il. « Enfin, » pensa le pauvre négociant, « nous arrivons à la question. » Avec sa lèdre, fils a fait tant ma maison à une grétide qui n'est limitée que par les bornes de ma propre fortune. Le baume exhilarant que contenait l'eau présentée par l'ange à Agar dans le désert devait ressembler à la rosée que répandirent dans les veines du parfumeur ces paroles semi-françaises. Le fin baron, pour avoir des motifs de revenir sur des paroles bien données et mal entendues, avait gardé l'horrible prononciation des juifs polonais qui se flattent de parler français. « Et fils aurait à une gomme de courant, voici comment y procéderont. » Dit avec une bonhomie alsacienne le bon, le vénérable et grand financier. Birotteau ne douta plus de rien. Il était commerçant et savait que ceux qui ne sont pas disposés à obliger n'entrent jamais dans les détails de l'exécution. « Je ne vis à prendre bas qu'au grand comme au petit, la panque demande trois signatures. Donc vous ferez tisifi à l'ordre de notre ami Ditillet, et j'y les en ferai le jour même avec ma signature à la panque, et vis aurez à quatre heures le monde entier y fait que vis aurez s'inscrit les matins. » Et au taux de la banque, je ne fais ni commission, ni heisgonde, ni rien, car j'aurai les bonheurs de fils être agréable. Mais je me dis à une condition, dit-il, en effleurant son nez de son index gauche par un mouvement d'une inimitable finesse. Monsieur le baron, elle est accordée d'avance, dit Birotteau, qui crut à quelque prélèvement dans ses bénéfices. à une condition à laquelle j'attache les plus grandes prises, parce que je fais ce que mon dame de Nissingen brenne, comme il l'a dit, des leçons de madame Pirotteau. Monsieur le baron, ne vous moquez pas de moi, je vous en supplie. Mein sire Pirotteau, dit le financier d'un air sérieux, cesse de gonfler, finisse infidré à votre prochain bal. Mon femme est jalouse, il est faux foire, faux abardement, dont on l'y a tit à une pine générale. Monsieur le baron, oh, si vous n'y refoussez, point de compte, vous êtes en grande fafure. Vie, je sais que vous saviez les préfets de la Seine qui a t'y finir. Monsieur le baron, vous saviez la puyartière à un gentilhomme ordinaire de la chambre. Pon fete hein gomme fils qui fisest pet plaisir au camp de Chain Rock. Au 13 Vendémiaire, monsieur le baron. Vis à fier, menesir te la sébette, menesir Fauquelin te l'académie. Monsieur le baron, hé, tertefle, ne soyez pas immodeste, monsieur l'adjointe. J'ai appris que le roi a fait tite que faudre pâle. Le roi? Dit Birotteau qui n'en put savoir davantage. Il entra familièrement un jeune homme dans l'appartement et dont le pas, reconnu de loin par la belle Delphine de Nucingen, l'avait fait vivement rougir. « Bonjour, mon cher Témarcet, dit le baron de Nucingen, « brenez ma place. Il y a ma tantite à une montée fou dans mes bourreaux. Je sais pour qui les mines des fortunes donnent 2 gabitaux de rente. Vie, chère Silégonde. » Vi ça fait 100 000 livres de rente de plus, madame de Nucingen. Vi pire acheter des chindires et autres papioles pour être jolie, comme si vous en aviez besoin. Grand Dieu, les Ragon ont vendu leurs actions, s'écria Birotteau. Qu'est-ce que ces messieurs? Demanda le jeune élégant en souriant. Voilà, dit monsieur de Nucingen en se retournant, car il atteignait déjà la porte. Elle me semble que ces personnes... « Témarcet, ceci est Mandésir Pirotteau, votre parfumier, qui donne des pâles, des magnificences asiatiques, et que les rois a décoré. » De Marsay prit son lorgnon et dit « Ah, c'est vrai, je pensais que cette figure ne m'était pas inconnue. Vous allez donc parfumer vos affaires de quelques vertueux cosmétiques, les huiler ?»« Eh bien, c'est raconce !» reprit le baron en faisant une grimace d'homme mécontent. « Affaire à une gonde, j'ai-moi. Je les ai favorisés à une fortune et ils n'ont pas eu la dendre à une chourte plus. »« Monsieur le baron !» s'écria Birotteau. Le bonhomme trouvait son affaire extrêmement obscure et sans saluer la baronne ni de Marsay, il courut après le banquier. Monsieur de Nucingen était sur la première marche de l'escalier, le parfumeur l'atteignit au bas quand il entrait dans ses bureaux. En ouvrant la porte, monsieur de Nucingen vit un geste désespéré de cette pauvre créature qui se sentait enfoncée dans un gouffre et il lui dit « Eh bien, c'est entendu. Foyez ce dit-il et arrangez-vous tite avec lui. » Birotteau crut que de Marsay pouvait avoir de l'empire sur le baron. Il remonta l'escalier avec la rapidité d'une hirondelle, se glissa dans la salle à manger où la baronne et de Marsay devaient encore se trouver. Il avait laissé Delphine attendant son café à la crème. Il vit bien le café servi, mais la baronne et le jeune élégant avaient disparu. Le valet de chambre sourit à l'étonnement du parfumeur qui descendit lentement les escaliers. César courut chez Dutillet qui était, lui dit-on, à la campagne, chez madame Roguin. Le parfumeur prit un cabriolet et paya pour être conduit aussi promptement que par la poste à Nogent-sur-Marne. À Nogent-sur-Marne, le concierge lui apprit que monsieur et madame étaient repartis à Paris. Birotteau revint brisé. Lorsqu'il raconta sa tournée à sa femme et à sa fille, il fut stupéfait de trouver sa Constance, ordinairement perchée comme un oiseau de malheur sur la moindre aspérité commerciale, lui donner les plus douces consolations et lui affirmer que tout irait bien. Le lendemain, Birotteau se trouva dès 7 heures dans la rue de Dutillet, au petit jour, en faction. Il pria le portier de Dutillet de le mettre en rapport avec le valet de chambre de Dutillet en glissant 10 francs au portier. César obtint la faveur de parler au valet de chambre de Dutillet et lui demanda de l'introduire auprès de Dutillet aussitôt que Dutillet serait visible et il glissa 2 pièces d'or dans la main du valet de chambre de Dutillet. Ces petits sacrifices et ces grandes humiliations, communes aux courtisans et aux solliciteurs, lui permirent d'arriver à son but. À 8h30, au moment où son ancien commis passait une robe de chambre et secouait les idées confuses du réveil, bâillait, se détortillait, demandant pardon à son ancien patron, Birotteau se trouva face à face avec le tigre affamé de vengeance dans lequel il voyait son seul ami. « Faites, faites !» disait Birotteau. « Que voulez-vous, mon bon César ?» dit Du Tillet. César livra, non sans d'affreuses palpitations, la réponse et les exigences du baron de Nucingen à l'inattention de Du Tillet, qui l'entendait en cherchant son soufflet, en grondant son valet de chambre sur la maladresse avec laquelle il allumait son feu. Le valet de chambre écoutait, César ne l'apercevait pas, mais il le vit enfin, s'arrêta confus et reprit au coup d'éperon que lui donna Du Tillet. « Allez, allez, je vous écoute !» dit le banquier distrait. Le bonhomme avait sa chemise mouillée. Sa sueur se glaça quand Du Tillet dirigea son regard fixe sur lui, lui laissa voir ses prunelles d'argent tigrées par quelques fils d'or, en le perçant jusqu'au cœur par une lueur diabolique. « Mon cher patron, la banque a refusé des effets de vous passer par la maison Claparon à Gigonnet, sans garantie. Est-ce ma faute? Comment vous, vieux juge consulaire, faites-vous de pareilles boulettes? Je suis avant tout banquier. Je vous donnerai mon argent, mais je ne saurais exposer ma signature à recevoir un refus de la banque. Je n'existe que par le crédit. Nous en sommes tous là. Voulez-vous de l'argent? Pouvez-vous me donner tout ce dont j'ai besoin? Cela dépend de la somme à payer. Combien vous faut-il? 30 000 francs. Beaucoup de tuyaux de cheminée sur la tête, fit Du Tillet en éclatant de rire. En entendant ce rire, le parfumeur, abusé par le luxe de Du Tillet, voulut y voir le rire d'un homme pour qui la somme était peu de chose. Il respira. Du Tillet sonna. « Faites monter mon caissier. »« Il n'est pas arrivé, monsieur, » répondit le valet de chambre. « Ce drôle-là se moque de moi, il est 8h30. On doit avoir fait pour 1 000 000 d'affaires à cette heure-ci. » 5 minutes après, monsieur Legras monta. « Qu'avons-nous en caisse ?»« 20 000 francs seulement. Monsieur a donné l'ordre d'acheter pour 30 000 francs de rente au comptant payable le 15. » « C'est vrai, je dors encore. » Le caissier regarda Birotteau d'un air louche et sortit. Si la vérité était bannie de la terre, elle confierait son dernier mot à un caissier, dit Du Tillet. « N'avez-vous pas un intérêt chez le petit Popinot qui vient de s'établir ? » dit-il après une horrible pause, pendant laquelle la sueur emperla le front du parfumeur. « Oui, » dit naïvement Birotteau. « Croyez-vous que vous pourriez m'escompter sa signature pour une somme importante ?» « Apportez-moi 50 000 francs de ces acceptations. Je vous les ferai faire à un taux raisonnable chez un certain Gobseck, très doux quand il a beaucoup de fonds à placer. Et il en a. » Birotteau revint chez lui navré, sans s'apercevoir que les banquiers se le renvoyaient comme un volant sur des raquettes. Mais Constance avait déjà deviné que tout crédit était impossible. Si déjà 3 banquiers avaient refusé, tous devaient s'être questionnés sur un homme aussi en vue que l'adjoint, et conséquemment la Banque de France n'était plus une ressource. « Essaye de renouveler, dit Constance, et va chez Monsieur Claparon, ton co-associé, enfin chez tous ceux à qui tu as remis les effets du 15, et propose des renouvellements. Il sera toujours temps de revenir chez les escompteurs avec du papier Popinot. » « Demain le 13, dit Birotteau tout à fait abattu. Suivant l'expression de son prospectus, il jouissait de ce tempérament sanguin qui consomme énormément par les émotions ou par la pensée, et qui veut absolument du sommeil pour réparer ses pertes. Césarine l'amena dans le salon et lui joua pour le recréer le songe de Rousseau, très joli morceau d'Hérold. Constance travaillait auprès de lui. Le pauvre homme se laissa aller la tête sur une ottomane, et toutes les fois qu'il levait les yeux sur elle, il la voyait un doux sourire sur les lèvres. Il s'endormit ainsi. « Pauvre homme, dit Constance, à quelle torture il est réservé, pourvu qu'il y résiste. « Eh, qu'as-tu, maman ?» dit Césarine en voyant sa mère en pleurs. « Chère fille, je vois venir une faillite. Si ton père est obligé de déposer son bien, il faudra n'implorer la pitié de personne. Mon enfant, sois préparée à devenir une simple fille de magasin. Si je te vois prendre ton parti courageusement, j'aurai la force de recommencer la vie. Je connais ton père, il ne soustraira pas un denier. J'abandonnerai mes droits, on vendra tout ce que nous possédons. Toi, mon enfant, porte demain tes bijoux et ta garde-robe chez ton oncle Pierrot, car tu n'es obligé à rien. » Césarine fut saisie d'un effroi sans bornes en entendant ces paroles dites avec une simplicité religieuse. Elle forma le projet d'aller trouver Anselme, mais sa délicatesse l'en empêcha. Le lendemain, à 9 heures, Birotteau se trouvait rue de Provence, en proie à des anxiétés tout autres que celles par lesquelles il avait passé. Demander un crédit est une action toute simple en commerce. Tous les jours, en entreprenant une affaire, il est nécessaire de trouver des capitaux. Mais demander des renouvellements est, dans la jurisprudence commerciale, ce que la police correctionnelle est à la cour d'assises, un premier pas vers la faillite, comme le délit mène au crime. Le secret de votre impuissance et de votre gêne est en d'autres mains que la vôtre. Un négociant se met pieds et poings liés à la disposition d'un autre négociant, et la charité n'est pas une vertu pratiquée à la bourse. Le parfumeur, qui jadis levait un œil si ardent de confiance en allant dans Paris, maintenant affaibli par les doutes, hésitait à entrer chez le banquier Claparon. Il commençait à comprendre que chez les banquiers, le cœur n'est qu'un viscère. Claparon lui semblait si brutal dans sa grosse joie, et il avait reconnu chez lui tant de mauvais ton qu'il tremblait de l'aborder. « Il est plus près du peuple, il aura peut-être plus d'âme. » Tel fut le premier mot accusateur que la rage de sa position lui dicta. César puisa sa dernière dose de courage au fond de son âme et monta l'escalier d'un méchant petit entresol, aux fenêtres duquel il avait guigné des rideaux verts jaunis par le soleil. Il lut sur la porte le mot « bureau » gravé en noir sur un ovale en cuivre. Il frappa. Personne ne répondit. Il entra. Ces lieux plus que modestes sentaient la misère, l'avarice ou la négligence. Aucun employé ne se montra derrière les grillages en laiton, placés à hauteur d'appui sur des boiseries de bois blanc non peint, qui servaient d'enceinte à des tables et à des pupitres en bois noirci. Ces bureaux déserts étaient encombrés d'écritoires, où l'encre moisissait, de plumes ébouriffées comme des gamins, tortillés en forme de soleil, enfin, couverts de cartons, de papier, d'imprimés, sans doute inutiles. Le parquet du passage ressemblait à celui d'un parloir de pension, tant il était râpé, sale et humide.